Maria Edgeworth, Conte de l'enfance. Le pigeon blanc. Depuis quelques années, le petit bourg de Somerville, en Irlande, avait pris la physionomie riante d'un village anglais. Le propriétaire, M. Somerville, voulant inspirer à ses tenanciers l'amour de l'ordre et du foyer domestique, cherchait par tous les moyens en son pouvoir à encourager les gens industrieux et rangés à s'établir sur ses terres. Il fit construire une rangée de jolies maisons recouvertes en ardoises. Puis il déclara son intention de les louer aux meilleurs fermiers qu'il pourrait trouver. L'avis en fut aussitôt publié dans toute la contrée. Mais M. Somerville, en demandant les meilleurs fermiers, n'entendait pas les plus forts enchérisseurs, et plusieurs de ceux qui avaient offert le prix le plus élevé furent tout surpris de voir leur proposition rejetée. Parmi les gens ainsi évincés, il y avait un certain M. Cox, cabaretier de profession, qui ne jouissait pas d'une très bonne réputation. « N'en déplaise à votre honneur, dit-il à M. Somerville, je m'attendais, puisque j'ai offert un prix beaucoup plus élevé que tout autre, à ce que vous me loueriez la maison contiguë à celle de l'apothicaire. Ne vous en ai-je pas offert 15 guinées, et votre honneur ne l'a-t-elle pas donnée à un autre pour 13 ?»« Mon honneur a fait cela, répondit M. Somerville d'un ton calme. Et, n'en déplaise à votre honneur, je ne sais ce que j'ai fait pour vous offenser. Il n'y a pas dans toute l'Irlande un homme que je servirai avec plus d'empressement. Voyons, voulez-vous que je vienne à Cork, demain, chercher votre dernier mot ? Je vous remercie, Monsieur Cox, mais je n'ai point affaire à Cork pour le moment, répondit Monsieur Somerville d'un ton sec. Eh bien, s'écria Monsieur Cox, je ne demande plus rien qu'à connaître celui qui m'a calomnié auprès de votre honneur. Personne ne vous a calomnié, Monsieur Cox. Mais votre nez vous accuse d'aimer un peu trop à boire, vos yeux noirs et votre menton écorché ne vous calomnient pas trop en montrant que vous aimez les querelles. Les querelles ? Moi, un querelleur ? Ah, n'en déplaise à votre honneur, je défie tous les habitants du pays à 10 miles à la ronde de soutenir cela, et je suis prêt à me battre avec le premier qui osera dire que je suis un querelleur, ici même, en votre présence, à l'instant. Et M. Cox se mit dans l'attitude d'un homme disposé à soutenir son dire avec ses poings. Son geste menaçant fit sourire à M. Somerville, et les gens qui s'étaient arrêtés dans la rue pour le considérer un moment témoignaient par leur hilarité de leurs intentions pacifiques. Alors il changea de contenance et chercha à se justifier de l'accusation d'aimer boire. Quant à boire, n'en déplaise à votre honneur, il n'y a rien de vrai. Mes lèvres n'ont pas touché une goutte de whisky, bon ou mauvais, depuis 6 mois, si ce n'est avec Jamie McDool, le soir où j'eus le malheur de vous rencontrer, comme vous veniez de la foire de Ballinagrish. M. Somerville ne répondit pas. Il se retourna pour regarder les fenêtres d'une belle auberge neuve où le vitrier était occupé à mettre des vitres. « Cette auberge n'est pas encore louée, me dit-on, reprit alors M. Cox. « Rappelez-vous que vous me l'avez promise l'année dernière. »« Cela n'est pas possible, car je ne songeais pas à bâtir une auberge à cette époque. »« Oh, je vous demande bien pardon, mais vous ne voulez pas vous en souvenir. Vous m'avez fait cette promesse en passant près du marais et en présence de Taddy O'Connor. Vous pouvez le lui demander. »« Je ne le lui demanderai pas, assurément, » s'écria M. Somerville. « Je ne vous ai point fait une telle promesse et je n'ai jamais songé à bâtir une auberge pour vous. »« Ainsi, votre honneur ne veut pas me la louer. »« Non, vous m'avez fait une douzaine de mensonges. Je ne veux pas vous avoir pour fermier. »« C'est bien, Dieu vous bénisse, je n'ai rien à dire. » Et M. Cox s'en alla, rabattant son chapeau sur ses yeux et murmurant « J'espère vivre assez pour me venger. » Le lendemain matin, M. Somerville vint avec sa famille pour visiter l'auberge neuve qu'il s'attendait à voir entièrement terminée. Mais il rencontra le charpentier qui lui raconta d'un air piteux que 6 carreaux de vitre avaient été cassés la nuit dernière. « Ah, c'est peut-être M. Cox qui a cassé mes vitres pour se venger de mon refus, » dit M. Somerville. et plusieurs voisins, qui connaissaient la méchanceté de ce monsieur Cox, furent aussi d'avis que ce pouvait bien être un de ses tours. Un petit garçon d'environ 12 ans s'approcha d'un air empressé et dit
« Je n'aime pas beaucoup monsieur Cox, car il me bat quand il est ivre. Mais ce n'est pas une raison pour le laisser accuser à faux. Il ne peut pas avoir cassé les vitres de cette fenêtre la nuit dernière, car il était à près de 6 miles d'ici. Il a couché chez son cousin et il n'est pas encore rentré chez lui. C'est pourquoi je suis certain qu'il ne sait rien de tout cela. »
L'honnête simplicité de cet enfant charma M. Somerville. Quand on ouvrit la porte de la maison, il s'aperçut que le petit garçon regardait avec curiosité dans l'intérieur et il lui demanda s'il voulait entrer voir la maison neuve.
« Oui, monsieur, » dit l'enfant, « je voudrais bien monter les escaliers et voir là-dedans. »«
Viens donc en haut avec nous, » dit M. Somerville. Le petit garçon se mit à gravir en sautant les escaliers. Il courait d'une chambre à l'autre en poussant des exclamations de joie et d'étonnement. Enfin, comme il examinait un des greniers, il entendit un frémissement au-dessus de sa tête. La peur le saisit et il fit un bond en arrière. Puis, levant les yeux au plancher, il aperçut un pigeon blanc qui voltigeait tout autour de la pièce. L'oiseau, tout effaré à la vue de l'enfant, cherchait à s'enfuir et réussit à s'envoler par la porte de l'escalier. Le charpentier causait avec M. Somerville sur le palier. En apercevant le pigeon blanc, il s'arrêta tout court au beau milieu de son discours et s'écria
« Voici pour le coup, monsieur, le coupable qui a cassé les vitres la nuit passée. C'est bien le même pigeon maudit qui a cassé les vitres de l'église dimanche dernier. » Mais le voilà par terre, je vais le prendre et lui couper le cou à l'instant comme il le mérite.
Arrêtez, oh, arrêtez, ne lui coupez pas le cou, il ne le mérite pas,
s'écria le petit garçon qui descendit en courant du grenier.
C'est moi qui ai cassé vos vitres, monsieur, dit-il à M. Somerville. Je les ai cassées avec cette balle. Mais je ne savais pas encore tout à l'heure que c'était moi, je vous assure, car je vous l'aurais avoué tout d'abord. « Ne lui coupez pas le cou, je vous en prie »
ajouta-t-il en se tournant vers le charpentier qui tenait en ce moment le pigeon blanc dans ses mains.
« Non, dit M. Somerville, on ne coupera pas la tête du pigeon, ni la tienne, mon bon petit garçon, pour avoir cassé les vitres. Je suis convaincu, rien qu'à voir ta figure ouverte et honnête, que tu m'as dit la vérité. Mais cependant, explique-nous cela, car tu n'as pas éclairci l'affaire. » Comment as-tu cassé mes vitres sans le savoir? Comment es-tu arrivé à le découvrir?
Monsieur, dit le petit garçon, si vous voulez monter avec moi, je vous montrerai tout ce que je sais et comment je l'ai appris.
Monsieur Somerville le suivit dans le grenier. L'enfant se dirigea vers un carreau de vitre brisé qui appartenait à une petite fenêtre donnant sur une vaste pièce de terre située devant la maison. C'est là que les enfants du village avaient l'habitude de jouer.
C'est là que nous étions à jouer à la balle hier soir, continua le petit garçon en s'adressant à M. Somerville. Un de mes camarades me défia d'atteindre une marque sur le mur, ce que je fis aussitôt. Mais il prétendit que je n'avais pas touché le but et voulut me prendre ma balle comme dédit. Je refusai, et lorsque je commençais à lutter avec lui à cause de cela, je lançai ma balle et crus l'avoir jetée par-dessus la maison. Il courut la chercher dans la rue et ne put la trouver. J'en fus très content. Mais j'ai tout à l'heure été bien chagrin de la trouver sur ce tas de copeaux au bas de la fenêtre brisée. Car en la trouvant ici, j'ai tout de suite reconnu que c'était moi qui avais cassé les vitres. C'est par là aussi que le pigeon a dû entrer et voici encore une de ses plumes blanches qui se trouve attachée à l'ouverture.
« Oui, dit le charpentier, et au bas des fenêtres, il y a encore beaucoup de ces plumes. Je viens d'y regarder. C'est donc bien certainement le pigeon qui a cassé les carreaux de vitre. »
« Mais il ne serait pas entré dans la maison si je n'avais pas cassé cette petite fenêtre, » reprit avec chaleur le jeune garçon. « D'ailleurs, je suis capable de gagner 12 sous par jour et je paierai tout le dégât. » Le pigeon blanc appartient à une vieille femme de notre voisinage qui l'affectionne beaucoup et je ne voudrais pas voir tuer cette pauvre bête pour deux fois son pesant d'argent.
Prends le pigeon, mon brave, mon généreux garçon, dit monsieur Somerville, et va le porter à ta voisine. Je pardonne tout le dégât qu'il m'a fait par considération pour toi. Dis-le à ta vieille amie. Quant au reste, nous réparerons le dommage et tu garderas tous les 12 sous que tu peux gagner.
C'est ce qu'il n'a encore jamais fait, dit le charpentier. Il gagne en effet 12 sous par jour, mais il n'en est jamais entré un seul dans sa poche. Il donne tout à ses pauvres parents. Ils sont bien heureux d'avoir un tel fils.
Je suis encore plus heureux d'avoir un tel père et une telle mère, s'écria l'enfant. Dans leurs bons jours, ils n'épargnaient pour moi ni soins ni argent, et maintenant encore, si je les laissais faire, ils paieraient mon école malgré la détresse où ils sont tombés. Mais il faut que je songe à gagner la boutique. Bonjour, monsieur, je vous remercie de votre bonté,
ajouta-t-il en quittant M. Somerville.
Et où demeure cet enfant? Quels sont ses parents? Ils n'habitent pas dans le bourg, je n'ai jamais entendu parler d'eux.
Ils ne font que d'arriver ici, répondit le charpentier. Ils résidaient auparavant sur les terres du conseiller O'Donnell, mais ils se sont ruinés en prenant un bail de moitié avec un homme qui fit bientôt de mauvaises connaissances, perdit tout ce qu'il avait et ne put payer le propriétaire. Ces braves gens furent obligés de payer leur part de bail et la sienne, ce qui les ruina complètement. Ils quittèrent la ferme et vendirent leurs bestiaux et leur fourrage. Avec l'argent qu'ils ont retiré, ils ont monté une petite boutique dans le bourg. Ils ont l'estime de tous ceux qui les connaissent et j'espère bien qu'ils réussiront. Le petit garçon leur est très utile dans la boutique et quoi qu'il en dise, il gagne plus de 12 sous par jour. Il a une belle écriture et pour son âge, il est très prompt à dresser les comptes. Je crois qu'il fera son chemin car il ne fréquente pas de mauvaise compagnie. Je le connais depuis le temps où il n'était encore qu'un marmot et je ne l'ai jamais entendu dire un mensonge. Vous me faites en vérité un charmant portrait de ce jeune garçon, et sa conduite de ce matin me porte à croire qu'il mérite vos éloges. M. Somerville résolut de prendre de plus amples informations sur cette pauvre famille et de surveiller lui-même leur conduite, bien déterminé à leur venir en aide, s'ils se trouvaient tels qu'on les lui avait représentés. Cependant, le petit garçon, qui s'appelait Brian O'Neill, retourna porter le pigeon blanc à sa maîtresse.
Tu lui as sauvé la vie, dit la femme à qui appartenait le pigeon. Je t'en fais cadeau, mon enfant.
Brian la remercia et, de ce jour, il s'attacha de plus en plus à son pigeon. Il avait toujours soin de répandre pour lui du grain dans la cour de son père, et le pigeon devint bientôt si familier qu'il allait et venait, sautillant dans la cuisine, et qu'il finit même par manger dans le plat du chien. Brian, le soir après la fermeture de la boutique, s'amusait à lire de petits livres que le maître d'école, qui lui avait appris l'arithmétique, avait la bonté de lui prêter. Il y en avait un qui était plein d'histoires d'animaux. Brian chercha s'il ne trouverait pas celle du pigeon parmi les oiseaux, et, à son grand plaisir, il y vit tout au long la description et l'histoire de son oiseau favori.
« Il paraît, mon enfant, que les leçons de l'école n'ont pas été perdues pour toi, » lui dit son père. « Tu aimes la lecture et je vois que tu n'as pas besoin d'avoir ton maître auprès de toi pour te forcer à lire dans les livres. »«
Je vous remercie de m'avoir fait apprendre à lire, mon père, » répondit Brian. « Je viens de faire une grande découverte. » Dans ce petit livre, si petit, j'ai trouvé le plus curieux moyen de faire fortune et j'espère bien que vous en profiterez. Si vous voulez vous asseoir un moment, je vais vous raconter cela.
Monsieur O'Neill, pour complaire à son fils, plutôt que dans l'espoir de faire sa fortune, s'assit auprès de l'enfant et l'écouta. Son fils lui raconta qu'il avait trouvé dans son livre l'histoire de pigeons qui étaient dressés à porter des messages et des lettres.
« Eh bien, mon père, ajouta-t-il, mon pigeon est justement de cette espèce et j'ai l'intention de lui faire porter des messages. Pourquoi pas? Si d'autres pigeons l'ont fait avant lui, il est aussi facile de lui enseigner cela qu'aux autres et je commencerai dès demain matin. Vous savez qu'il y a des gens qui paieraient souvent de fortes sommes pour envoyer des messagers. Et certes, il n'y a pas de petit garçon pour courir, de cheval pour galoper aussi vite qu'un oiseau qui peut fendre l'air. C'est pourquoi je pense que c'est le meilleur messager et celui qui sera payé au plus haut prix. Qu'en dites-vous, mon père ?
Assurément, mon cher, assurément, répondit le père en riant. Je désire que tu fasses de ton pigeon le meilleur messager de toute l'Irlande. Tout ce que je demande, c'est que tu ne négliges pas la boutique pour ton pigeon, car j'ai l'idée qu'au moyen du commerce, nous avons plus de chances de faire notre fortune qu'avec le pigeon blanc. Brian suivit les conseils de son père, mais à ses heures de loisir, il s'amusait à dresser son pigeon. À force de patience, il réussit enfin si bien qu'un jour il offrit à son père de lui envoyer un mot par son pigeon pour lui faire connaître le prix des bœufs sur le marché de Ballinagrish où il allait.
« Le pigeon sera rendu longtemps avant moi. Il viendra à la fenêtre de la cuisine et se perchera sur le dressoir. Alors vous détacherez la petite note qui se trouvera sous son aile et vous aurez immédiatement le prix des bœufs. »
Le pigeon, en effet, apporta le message et Brian fut tout joyeux de ce succès. Les voisins, qui s'amusaient beaucoup de la tendresse de Brian pour son pigeon, s'en servirent à leur tour et bientôt la renommée du pigeon blanc se répandit chez tous ceux qui fréquentaient les marchés et les foires de Somerville. À l'une de ces foires, une bande de gens sans aveu formèrent le projet de concerter plusieurs vols. Ils étaient réunis au cabaret de M. Cox, que nous avons vu au commencement de cette histoire. Offensé de l'opinion exprimée sur son compte par M. Somerville, qui le considérait comme un ivrogne et un querelleur, et qui avait refusé de lui louer l'auberge neuve, cet homme avait juré de se venger. Tandis que ces gens parlaient de leur projet, un d'eux fit observer que leur dernier camarade n'était pas encore arrivé. « Il y a 6 miles d'ici, » dit un autre. Un troisième exprima le regret qu'on ne pût le faire prévenir à cette distance. La conversation roula bientôt sur les difficultés qu'on éprouve à envoyer au loin des messages rapides et sûrs. Le fils de Cox, qui était âgé d'environ 19 ans et faisait partie de la bande, parla du pigeon blanc et l'on décida qu'il fallait se procurer à tout prix un tel messager. En conséquence, le jeune Cox alla trouver Brian O'Neill le jour suivant et employa d'abord la persuasion, puis les menaces, pour le décider à se défaire de son pigeon. Brian persista dans son refus, surtout quand il vit son interlocuteur le menacer.
« Je l'aurai de gré ou de force !» dit Cox.
Peu de jours après, le pigeon disparut. Brian le chercha vainement. Il demanda à tout le voisinage si on ne l'avait point vu. Il s'adressa même, mais sans succès, au jeune Cox. Celui-ci jura qu'il ne savait rien. C'était un mensonge, car le jeune Cox l'avait volé pendant la nuit et envoyé aussitôt à ses complices qui se réjouirent de l'avoir en leur possession, croyant pouvoir s'en servir comme d'un messager rapide et discret. Rien n'a la vue plus bornée que le crime. Les précautions même que ces gens prirent pour cacher leur dessein tournèrent à leur propre confusion. Ils essayèrent d'instruire le pigeon qu'ils avaient volé à porter pour eux des messages à quelque distance de Somerville. Lorsqu'ils s'imaginèrent qu'il avait oublié ses premières habitudes et son ancien maître, ils crurent pouvoir s'aventurer à l'employer plus près du bourg. Mais le pigeon avait meilleure mémoire qu'ils ne le supposaient. Ils le lâchèrent d'un sac où il avait enfermé près de Ballinagrish, dans l'espoir qu'il s'arrêterait à la maison du cousin Cox sur la route de Somerville. Mais quoique le pigeon eût été à dessein à béquer dans cette maison pendant 1 semaine depuis son enlèvement, il ne s'y arrêta pas et s'envola du côté de la demeure de son ancien maître à Somerville. Il alla se percher à la fenêtre de la cuisine comme on le lui avait appris autrefois. Son maître, heureusement, l'entendit, et le pauvre Brian courut plein de joie ouvrir la fenêtre et le fit entrer.
« Oh, mon père, voici mon pigeon blanc qui revient tout seul à la maison » s'écria-t-il. « Je cours le montrer à ma mère !»
En ce moment, le pigeon secoua ses ailes et Brian aperçut un petit billet sale qu'il détacha et qu'il ouvrit aussitôt. C'était un griffonnage à peine lisible. Mais enfin, il parvint à déchiffrer ces mots. « Nous sommes 8 ici. Je vous envoie les noms au bas. Nous serons à 10 heures ce soir chez mon père et nous aurons tout ce qu'il faut pour pénétrer dans la grande maison. Monsieur Somerville couche dehors cette nuit. Gardez le pigeon jusqu'à demain. Toutaillou, Murtagh Cox. » À peine eurent-ils terminé la lecture de ce billet que le père et le fils s'écrièrent « Allons trouver Monsieur Somerville !» Avant de sortir, ils prirent toutefois la précaution de cacher le pigeon, de peur qu'on ne l'aperçût du dehors. Monsieur Somerville, par suite de cette heureuse découverte, prit les mesures nécessaires pour l'arrestation des 8 malfaiteurs qui avaient formé le complot de le voler la nuit suivante. Lorsqu'ils furent tous mis en lieu de sûreté, M. Somerville fit venir Brian O'Neill et son père. Il les remercia du service qu'il lui avait rendu. Puis, mettant 10 guinées sur la table, il les poussa vers Brian et lui dit « Vous savez sans doute qu'une récompense de 10 guinées a été promise, il y a quelques semaines, pour l'arrestation de John McDermott, un des 8 scélérats que vous avez fait prendre. » « Non, monsieur, dit Brian, je ne savais pas cela. » Et je ne vous ai pas donné ce billet pour gagner 10 guinées, mais parce que j'ai cru que cela était juste. Je ne dois pas être payé pour avoir fait mon devoir.
C'est bien, mon enfant, dit O'Neill.
Nous vous remercions, mais nous ne prendrons pas cet argent. Je ne veux pas toucher le prix du sang.
Je sais, mes bons amis, dit M. Somerville, la différence qu'il y a entre de vils délateurs et d'honnêtes gens comme vous.
« Aussi, monsieur, quoique pauvres, nous resterons honnêtes. »«
Et bien plus, je crois que vous continuerez à être honnête, même si vous étiez riche. »«
Veux-tu, mon garçon, ajouta M. Somerville après un moment de silence, veux-tu me confier ton pigeon pendant quelques jours ?»«
Oh, monsieur, dit l'enfant avec un sourire, il est à votre disposition. »
Il apporta le pigeon à M. Somerville quand il fit noir et personne ne le vit. Peu de jours après, M. Somerville fit mander O'Neill et le pria de venir avec son fils. En passant devant l'auberge neuve, ils trouvèrent le charpentier qui venait de placer une enseigne recouverte d'un morceau de tapisserie.
« Veux-tu monter à l'échelle ? » dit M. Somerville à Brian et redresser cette enseigne car elle est suspendue tout de travers.
« Bien, maintenant, la voilà droite. Allons, ôte la tapisserie et laisse-nous voir la nouvelle enseigne. »
L'enfant la découvrit et aperçut un pigeon blanc peint sur un fond noir avec le nom de O'Neill écrit au-dessous en grosses lettres.
« Prends garde de tomber et de te casser le cou dans cette joyeuse circonstance !» dit M. Somerville en voyant que la surprise de Brian était trop forte pour sa situation. « Descends de l'échelle et viens féliciter ton père d'être le maître de la nouvelle auberge du Pigeon Blanc. Pour moi, je le félicite d'avoir un fils tel que toi. Ceux qui, riches ou pauvres, élèvent bien leurs enfants seront tôt ou tard récompensés. »